Bonjour, comme vous l'a dit Tony, je vais vous présenter les nouveautés d'ASP.NET MVC3 pendant cette prochaine heure. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc moi, c'est Jérôme Hugon, je suis développeur .NET. Je mets ça un peu au sens général, parce que ma spécialité, c'est le développement web. Donc ça va être les web forms, les applications MVC, les applications SharePoint. Je suis aussi amené à faire des développements pour des applications Surface ou Windows. Donc, moi, je travaille au sein d'une équipe de développement .NET pour une société genevoise, Label. On est situé au cœur de Genève, on est une agence de communication multicanal. Là derrière, j'entends qu'on fait de la communication offline et online, c'est-à-dire qu'on va aussi bien faire des campagnes de pub classique, papier, affichage, que des campagnes Web 2.0 orientées vers les médias sociaux, donc Twitter, Facebook, etc. Alors, je vais immédiatement rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de nouveautés avec cette version d'ASP.NET MVC. On va d'abord commencer par voir l'intégration d'MVC au sein de Visual Studio. De quelle manière les nouveaux outils ont été inclus dans Visual Studio 2010. Ensuite, on enchaînera avec le moteur de vue Razor, qui est l'une des plus grosses évolutions de cette version. Donc, on commencera par un petit comparatif avec le moteur ASPX. Puis on verra un petit peu plus de spécificité. Ensuite, on enchaînera avec toute la liste des nombreuses améliorations qui ont été apportées, tant au niveau des contrôleurs, à JavaScript et Ajax, la validation des modèles, mais aussi l'injection de dépendance. Et en fonction du temps qui nous restera, on pourra voir plusieurs autres nouveautés. On va immédiatement commencer avec une démonstration sur l'intégration de MVC dans Visual Studio. Alors, vous pouvez télécharger la version 3 de MVC directement depuis le site ASP.NET. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous allez pouvoir avoir un nouveau template de projet ici dans Visual Studio. Donc, on va en créer un, tout simplement. Donc, là, déjà, première différence par rapport à la version 2. La version 2 n'incluait que ce groupe d'options en bas pour créer un test de projet, un projet de test unitaire. Ce groupe est toujours présent, mais on a aussi ce groupe qui est plus haut Project Template, qui va nous permettre de sélectionner un template de site. Donc, soit on va pouvoir démarrer avec un template vide, soit avec une application MVC3 qui est déjà fournie, préconstruite. Donc, c'est exactement la même manière que MVC2. Si je reviens en arrière, juste dans l'écran précédent, en cliquant sur Cancel, on peut voir que ici on a l'ASP.NET MVC 2 Web Application et la version d'application vide. Donc maintenant, c'est mis dans ce nouvel écran. On va pouvoir aussi sélectionner le moteur de vue. Donc nous, on va sélectionner Razor, puisque c'est notre sujet principal. Si on va voir dans nos vues. Alors, j'ai sélectionné mon moteur de vue Razor. Ça n'empêche pas que je peux avoir des vues ASPX dans mon application MVC. Les deux peuvent cohabiter dans la même application. Donc, si je regarde un petit peu plus en détail une des vues, on va voir par exemple ici, c'est la page d'erreur qui est dans le template de site vide. On va voir que le template est plutôt très clair, il n'y a pas de choses en plus, on n'a pas les déclarations de page comme on aurait dans les web forms. Alors, on remarque aussi que les extensions des fichiers Razor vont être CSHTML au lieu de ASPX. Donc là, CS parce qu'on développe avec du C#, avec VB, ce serait bien évidemment VBHTML. Donc, on va retourner sur PowerPoint pour voir un petit peu plus en détail le moteur de vue. Donc, si on peut faire une comparaison entre le moteur ASPX et le nouveau moteur Razor, donc par exemple, pour écrire une variable avant, on utilisait les chevrons, les balises ASP, pour pouvoir écrire notre variable dans la vue. Maintenant, on va voir ce caractère arrobase. Donc, il suffit de connaître ce caractère arrobase pour connaître un peu la syntaxe Razor. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau, mis à part ceci. Pour écrire une instruction itérative, donc là, exactement comme avant, on va mettre notre boucle for each dans notre vue. Contrairement à précédemment, vous pouvez voir que dans la partie Razor, la syntaxe est beaucoup plus concise, beaucoup plus claire. On a moins de tags ASP, justement. On peut voir que Razor est assez intelligent justement pour l'ouverture de la boucle for each. Il arrive à faire l'association entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante tout seul. Comme pour la propriété speaker de la variable s, il arrive à pouvoir distinguer la fin de cette variable avec la parenthèse fermante. Razor connaît la sémantique du C# et du VFB, c'est ce qui lui permet justement de pouvoir savoir quand s'arrête une instruction et quand commence le contenu. Alors, dernière comparaison entre les deux moteurs, j'en ai encore rajouté, j'ai inclus notre ULLI à l'intérieur d'une instruction conditionnelle. Là, c'est première chose qui est frappante, c'est au niveau du moteur de vue ASPX, on a beaucoup plus de pâté, c'est beaucoup moins facile à lire par rapport à la syntaxe Razor. Et là encore, on voit que Razor arrive à faire l'association pour le if et le else, il arrive à les associer, bien qu'on n'ait qu'un caractère arrobase à l'ouverture de notre instruction if et un arrobase pour l'instruction for each. Vous aurez remarqué, dans mes exemples précédents, j'ai encadré avec des LI à l'intérieur des instructions conditionnelles et itératives. La raison, c'est que Razor, si j'écris une instruction conditionnelle comme ici, Razor ne sait pas distinguer le code du contenu. C'est-à-dire que ici, c'est un print screen de Visual Studio qui me surligne des erreurs, donc notamment pour Hello, est-ce que c'est un nom de variable qui aurait été déclaré ou pas? Est-ce que j'ai oublié l'espace de nom de ce type? Pourquoi est-ce que la ligne, là, donc là j'ai mis un petit peu en avant cette erreur, pourquoi est-ce que l'instruction ne se termine pas par un point-virgule? On voit que pour Razor, il s'agit d'un type de contenu de code. Si on mettait ce même contenu hors d'une instruction itérative ou conditionnelle, on n'aurait pas ce type d'erreur depuis Visual Studio. Alors pour justement pouvoir ne pas avoir ce type d'erreur et indiquer à Razor qu'on est dans du contenu, on va encadrer notre contenu dans des balises HTML. Bien évidemment, on n'a pas toujours envie d'avoir notre contenu qui va être encadré dans des balises HTML au niveau de la sortie. C'est pour ça qu'on a ces balises texte. On remarque d'ailleurs qu'elles sont colorées, surlignées en jaune par Visual Studio, qui indique qu'elles vont être interprétées. Ainsi, ma phrase qui est à l'intérieur Hello World va être considérée comme du contenu, et mes balises texte ne vont pas sortir dans la sortie HTML de ma vue. Par contre, si je prends cette même instruction avec les balises texte et que je la sors de mon instruction conditionnelle, je ne vais plus avoir ce surlignement en jaune de Visual Studio, je vais avoir la coloration habituelle des balises HTML. Et à ce moment-là, les balises texte se retrouveront dans la sortie HTML. Alors, vous pouvez écrire des instructions multiples comme en ASP, vous ouvrez avec des accolades, l'accolade ouverte étant précédée par un arrobase. Vous pouvez écrire toute une suite d'instructions. Alors à l'intérieur, vous ne pouvez par contre pas déclarer des classes ou définir des méthodes. Vous pouvez simplement déclarer des variables, les assigner, faire des choses un petit peu simples comme ici. Après, les variables qui auront été déclarées au sein d'une instruction multiple, vous pouvez les utiliser au sein de votre vue, comme ici à l'intérieur de la balise P. À la même manière, vous avez la possibilité de créer des instructions composées. Donc là, cette fois, c'est avec les parenthèses. Et la parenthèse ouvrante est précédée du caractère arrobase. Alors pour ceux qui auraient remarqué dans le premier exemple où je comparais le moteur ASPX et le moteur Razor, dans le moteur ASPX, l'équivalent de l'écriture de la variable, c'est avec le caractère de point et pas avec le caractère égal. Ça signifie qu'on doit HTML encoder le contenu. Et c'est ce que Razor va faire par défaut une fois que je vais écrire ma variable testEncode, qui a des caractères spéciaux ici. La sortie dans le HTML sera encodée. Pardon. Sera encodée. Si par contre on ne veut pas encoder le contenu, on va pouvoir utiliser la méthode raw de l'objet HTML pour pouvoir avoir une sortie où le contenu ne va pas être HTML encodé. On a une nouvelle directive qui vient avec ces moteurs de vue, c'est la directive modèle. Donc, Sans cette directive, on va avoir notre propriété modèle qui est une propriété dynamique qu'on veut voir ici. Donc on ne va pas bénéficier de l'intellisense ou de la vérification des types. On va seulement voir les erreurs sur les variables au moment de l'exécution de notre vue. Et maintenant, on va pouvoir spécifier dans notre vue le type de notre propriété modèle. Donc, on définit la directive modèle suivie du type de notre propriété modèle. Donc là, c'est une classe session model que j'ai créée pour la démonstration. Donc notre objet modèle va être une liste d'objets session model. L'intellisense reconnaît d'ailleurs la directive modèle et permet de mettre le typage au niveau de la propriété modèle. Donc, je vais passer à une démonstration sur les layouts et les sections. Donc, de la même manière qu'on a les master pages de la même manière qu'on a les master pages dans les web forms, on va avoir les layouts au niveau des MVC. Alors, un layout, on va voir le layout qui est par défaut. Ici, donc un layout comme pour une master page, vous voyez, vous pouvez contenir une en-tête avec le titre de la page, les références vers les CSS, les JavaScript, tout ce qui va être commun à toutes les pages de votre site. Vous avez en plus ici cette méthode RenderBody, c'est ici que va être injecté le contenu de la vue. Comme ça. Donc, pour lier justement ce layout avec ma vue, on va avoir une méthode qui a été mise en place, qui est une méthode globale. C'est-à-dire qu'à la racine de mon dossier view ici, je vais avoir ce fichier viewStart, qui est un fichier spécial. Si je l'ouvre, je vais avoir la définition ici de la variable layout avec le chemin de mon layout par défaut. Et ainsi, je vais avoir toutes les vues qui sont au même niveau que ce fichier viewStart et en dessous qui vont hériter de cette valeur pour le layout. Si je vais dans mon application, donc ici c'est la home page, qui hérite du layout global, en changeant de page, j'ai toujours le même layout. Le truc intéressant avec ce fichier viewStart, c'est que vous pouvez en disposer comme ici dans des sous-dossiers, redéfinir, surcharger la propriété layout avec un nouveau layout. Donc là, j'ai fait un custom layout qui est exactement le même que le précédent, mis à part une couleur de fond grise que j'ai rajoutée pour pouvoir le distinguer. Et ainsi, une fois que je l'ai mis dans ce dossier Razor Layout, je vais avoir toutes les vues qui vont être au même niveau ou en dessous qui vont hériter de cette nouvelle surcharge. Donc, si je retourne dans mon site. Donc voilà, j'ai bien le fond gris, la propriété layout a bien été surchargée. Je suis bien dans mon dossier ici, Razor Layout. Alors bien évidemment, vous pouvez également surcharger cette propriété layout au niveau de la vue. Comme ici dans cette vue, je peux spécifier une nouvelle vue. Donc par exemple, ici pour ma vue, je vais avoir mon nouveau custom layout. Donc là, j'ai bien le fond gris qui est appliqué. On peut également casser toute liaison avec un layout. Il suffit d'affecter la valeur null à notre propriété layout. Et ainsi, toute liaison avec un layout va être supprimée. Comme ici. Et on va seulement avoir le contenu de notre vue qui va apparaître dans la sortie HTML. Alors, de la même manière qu'on peut disposer plusieurs content placeholders dans les master pages pour pouvoir disposer différents types de contenus à des endroits spécifiques de notre page, dans les layouts, on va avoir un système qui va être les sections. Donc, on va déclarer des sections au niveau de notre layout et ensuite, on va aller introduire le contenu qu'on souhaite au niveau des pages. Donc, pour définir une nouvelle place pour notre section, on va utiliser la méthode RenderSection. Le premier paramètre, ça va être le nom de notre section. Et en second paramètre, on va pouvoir mettre un booléen pour spécifier si cette section est obligatoire ou non dans les vues. Alors, si on spécifie une section obligatoire avec la valeur true, qu'elle n'est pas présente dans la vue, ça va nous lever une exception. Et inversement, si on définit on déclare une section dans une vue, mais qui n'aurait pas été définie dans le layout, on aura également une exception. Donc la manière la plus souple est de définir la section dans le layout, mais de la mettre en facultative. La seconde étape, ça va être d'aller dans la vue. Et on va pouvoir utiliser la directive section, suivie du nom qu'on aura défini pour notre section. Puis entre accolades, on va pouvoir mettre le contenu, soit du HTML, soit on pourrait mettre du code Razor à l'intérieur, qui va être affiché pour cette section. Alors tout le contenu qui est ici en haut, au-dessus de ma section, mais qui n'est contenu dans aucune section spécifique, sera rendu dans le layout via la méthode RenderBody. Si on retourne sur les exemples. Donc voilà, j'ai bien en bas mon footer qui s'affiche. Donc voilà pour le tour des nouveautés sur Razor. Donc, je vous ai présenté les grandes lignes ici, mais on va passer aux améliorations. Donc les améliorations au niveau des contrôleurs. On a trois choses spécifiques qui ont été ajoutées. On a les filtres d'action globaux, la propriété ViewBag et les nouveaux types dérivés de Action Result. Donc là, pour chacun d'eux, je vais faire une démonstration. C'est plus parlant. Donc on va commencer avec les filtres d'action globaux. Donc la précédente version, on pouvait ajouter des filtres d'action au niveau des actions ou au niveau des contrôleurs. Maintenant, on a la possibilité de définir des filtres d'action globaux au niveau du fichier GlobalAsAx. Donc, notre application, par défaut, va contenir cette méthode statique, RegisterGlobalFilter, par défaut, et va ajouter un premier filtre HandleErrorAttribute. Nous, on peut créer nos propres filtres globaux. Là, j'en ai créé un. Le principe, c'est de créer une nouvelle classe, de la faire hériter de la classe de base ActionFilterAttribute. Si on va voir plus en détail cette classe, on voit qu'on peut surcharger l'une des quatre méthodes. Suivant le moment où on veut que la requête passe par notre filtre, on va faire une surcharge sur l'une de celles-ci. Donc moi, j'ai fait une surcharge ici sur la méthode UnResultExecuted. Donc c'est juste avant que la réponse soit renvoyée au client. Et à l'intérieur, je fais un test pour savoir si on se trouve dans le contrôleur Controller Improvement et dans l'action Sample One. Si c'est bien le cas, je vais rajouter sur ma réponse un message, tout simple, message à partir du filtre, qui sera entouré en rouge pour qu'on le distingue bien. On va ajouter un point d'arrêt ici. Dans mon fichier GlobalAsAx, je vais ajouter ce filtre à la collection des filtres globaux. Compile. Donc, je lance avec le débugger. Donc à chaque requête, je vais passer par mon filtre. Donc comme ici, je passe par le filtre. Forcément, la condition va pas être remplie, donc je vais passer outre le filtre. Je change le point d'arrêt. Là encore, je passe par le filtre, mais pas la condition n'est pas vérifiée, donc on n'a pas le message. Et une fois que j'arrive sur le bon contrôleur et le bon exemple, je vais passer à l'intérieur de ma condition. Je vais pouvoir écrire mon message qui apparaît en bas de la page. Alors bien évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus utiles avec ce type de fonctionnalité que juste écrire un message à la fin de notre page web. On peut notamment implémenter une politique de sécurité globale. On pourrait contrôler beaucoup plus finement la sortie de notre contenu HTML. Libre à vous après d'implémenter la logique qui vous va. Deuxième évolution, deuxième amélioration au niveau des contrôleurs. Alors pour ceux qui connaissent MVC2, ils vont sûrement connaître. Alors, je vais retourner sur mon contrôleur. Connaître le dictionnaire ViewData ici. Un dictionnaire ViewData vous permettait d'écrire avec une clé un contenu que vous pouviez ensuite récupérer dans votre vue. vous le verrez comme ceci. Alors, bien évidemment, il y a certains qui n'aiment pas trop ce genre de choses, mettre une string en tant que clé pour une collection. C'est de là qu'est née l'idée de créer cette propriété dynamique ViewBag. C'est une propriété dynamique pour laquelle je vais pouvoir spécifier une nouvelle propriété et un nouveau message. Alors pour ceux qui ont suivi les évolutions de cette version 3 de MVC, vous avez sûrement connu cette propriété comme s'appelant ViewModel. Elle a été renommée lors de la release en ViewBag. Donc, je retourne dans ma vue, je peux l'écrire de cette manière, récupérer aussi simplement que pour le dictionnaire ViewData. Et voilà, ça s'affiche bien les messages. La chose intéressante avec cette propriété ViewData et ce dictionnaire avec ce dictionnaire ViewData et cette propriété ViewBag, c'est qu'en interne, les données sont stockées au même endroit. C'est-à-dire que j'ai ajouté un message, un contenu pour cette clé message ViewData dans le dictionnaire. J'ai ajouté une propriété dynamique, une propriété à la propriété dynamique ViewBag. Mais je vais pouvoir récupérer à partir de l'un l'autre. Donc, par exemple, à partir du message du dictionnaire ViewData, je vais pouvoir récupérer la clé message ViewBag. Et inversement, à partir de la propriété dynamique ViewBag, je vais pouvoir récupérer le contenu de message ViewData. Si je recharge, j'ai bien ViewData, ViewBag une seconde fois et à nouveau ViewData, comme dans la vue. Donc là, ici, le but, c'est de laisser le choix au développeur, la technique qu'il préfère, soit utiliser le dictionnaire comme avant, soit utiliser la propriété dynamique. C'est au choix de chacun. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer sur l'amélioration des contrôleurs, c'était les nouveaux types dérivés de Action Result. Donc souvent, quand on fait du web, on va renvoyer des codes, des statuts HTTP plutôt communs, donc les 404, les 301, les 302. Donc là, on nous fournit, par exemple ici, avec HTTP Not Found, cette méthode qui est incluse dans le contrôleur, qui va nous permettre de retourner un 404 à notre client. Donc, je vais voir Firebug. Donc, si j'appelle cet exemple, j'ai bien une 404 qui est retournée par le serveur. Alors, le tout a été fait avec simplement cette méthode HTTP not found. Si je regarde plus en détail cette méthode HTTP not found, elle retourne un objet de type HTTP not found result. On va encore aller plus loin, on va aller voir cette classe qui dérive elle-même de la classe HTTP status code result. Et c'est cette classe qui contient les propriétés status code et status description qui vont me permettre de renvoyer un code de statut à mon client. Donc, je peux logiquement utiliser cette classe pour envoyer un code d'erreur ou un code de mon choix, comme ici. Je crée un nouvel objet HTTP status code result et je vais renvoyer le code 900. J'ai bien le code 900 qui est renvoyé par le serveur. Alors, en plus de ces codes d'erreur communs comme la 404, on va voir les redirections. Donc là, on va avoir des redirections permanentes et les redirections temporaires. Et là encore, on a des nouvelles classes qui vont être redirect result. Donc, on va aller à l'intérieur de cette classe. Cette classe dérive de la classe de base action result. Et elle va contenir notamment deux propriétés, donc la propriété URL qui va être l'URL de la redirection à faire, et cette propriété booléenne permanente qui va permettre d'indiquer s'il s'agit d'une redirection temporaire ou d'une redirection permanente. Donc, en revenant dans mon exemple, ici, si j'instancie un nouvel objet redirect result en spécifiant le chemin vers lequel faire la redirection. Je ne spécifie aucune valeur pour cette propriété permanente. Sa valeur sera donc false par défaut. Et on aura donc une 302 qui sera retournée au navigateur. Redirection temporaire. C'est ici. Donc j'ai bien une 302 qui a été retournée, puis une redirection vers la home page de mon site. Je pourrais spécifier ici un deuxième paramètre et indiquer la valeur true pour pouvoir indiquer qu'il s'agit d'une redirection permanente et ainsi indiquer un code 301 au navigateur. Ou je peux utiliser, comme ici, ces méthodes qui sont incluses dans la classe contrôleur et qui vont permettre de spécifier directement qu'il s'agit de redirection permanente et donc d'initialiser cette propriété permanente avec la valeur true. J'aurais juste qu'à indiquer le chemin vers lequel faire ma redirection. Donc, moi, j'utilise ici redirect permanente. MVC3 nous fournit aussi redirect to action permanente et redirect to route permanente. Donc là, dans le même principe que précédemment, je vais avoir un code 301 qui va être retourné par mon navigateur, puis une redirection vers la home page de mon site. Donc voilà pour les améliorations au niveau des contrôleurs. On va passer à des améliorations JavaScript et Ajax. Donc, on connaît le concept de unobtrusive JavaScript, c'est-à-dire une approche discrète du JavaScript. Le principe, c'est de ne plus inclure de lignes de JavaScript dans la sortie HTML. Tout va être inclus dans des fichiers externes. Donc, MVC3 inclut ce concept en tant que fonctionnalité, puisqu'on va pouvoir dire si on veut utiliser ou non cette fonctionnalité. Donc ça se passe soit au niveau du fichier de configuration web, dans la section App Settings, vous avez cette clé Unobtrusive JavaScript Enable, qui va vous permettre de spécifier si vous voulez ou non l'utiliser. Vous pouvez également, au niveau du code, activer ou désactiver cette propriété grâce à la classe statique HTML Helper et la propriété Unobtrusive JavaScript Enable. Si jamais vous désactivez cette propriété, vous pouvez avoir des portions de JavaScript qui vont être incluses par MVC dans le code de votre application. Là, c'est la portion de JavaScript que j'ai prise suite à un formulaire que j'ai créé sur un objet qui a contenu les propriétés fields, speaker, schedule. Et j'ai désactivé la fonctionnalité. Et à la fin de mon formulaire, MVC a introduit ce code JavaScript. On voit qu'il y a une grosse portion de JSON, donc moi j'ai fait les retours à la ligne, mais il faut savoir que ça tient sur deux lignes normalement, donc c'est assez difficilement lisible. Alors si on active cette fonctionnalité, on ne va plus avoir cette portion qui va être incluse dans la sortie HTML. En contrepartie, MVC3 va utiliser les attributs qui sont HTML5 valides, comme data-val par exemple, pour stocker toutes les informations dont il a besoin pour effectuer les validations. Donc là, si vous pouvez voir cet exemple, vous pouvez remarquer qu'il s'agit notamment de champs qui vont devoir être validés au moment de la validation de la soumission du formulaire. Donc si on n'a pas le JavaScript, en contrepartie, on va avoir plus d'attributs dans nos champs. Ça nous amène d'ailleurs à l'amélioration de la validation des modèles, où on va pouvoir voir ces attributs sur les champs. Je commencerai d'abord par l'interface eValidateableObject qui a été introduite avec le framework 4 du .NET, qui est prise en charge avec cette version d'MVC. Je continuerai ensuite avec les attributs de validation. On fera un focus sur l'attribut remote. Et je finirai succinctement par la validation granulaire des données et l'attribut additional metadata. Je vais commencer par une démonstration avec l'interface eValidateableObject. Donc cette interface qui a été introduite avec le framework 4 du .NET va nous permettre de faire des validations au niveau de notre modèle. Donc pour cet exemple, j'ai créé un modèle qui est dans le dossier modèle. C'est un modèle track qui contient simplement deux propriétés, title et description. Donc on va implémenter cette interface invalidatable object. Donc cette interface, vous voyez qu'elle dérive de l'espace, elle est incluse dans l'espace de nom system.componentModel.dataNotation, qui vient avec le .NET 4 donc. Si on regarde plus en détail cette interface, on voit qu'elle contient une seule méthode, validate, qui retourne une collection d'objets validationResult. Donc pour l'implémenter, je vais simplement avoir une méthode à écrire. L'implémenter. Donc à l'intérieur, je vais pouvoir faire toutes les validations requises. Donc par exemple, je vais regarder est-ce que mon champ title est vide. S'il est vide, alors je vais retourner un nouvel objet validationResult. Et je spécifie le message à afficher au client. Je compile. Alors, au niveau de ma vue, ici, pour cet exemple, si je vais dans la vue, validation. Ouais, j'ai rien mis de spécifique dans ma vue pour la validation. C'est l'exemple type qui a été créé avec Visual Studio. Donc j'ai un résumé pour ici les messages d'erreur. Ici, je vais avoir la méthode editFortModel qui va permettre d'écrire mes champs dans la sortie, puis le bouton de soumission du formulaire. Donc, si je vais au niveau de mon formulaire. Si je valide, j'ai bien la validation qui est faite avec l'interface invalidatable object. J'ai le message d'erreur qui ici s'est bien écrit. Le titre est obligatoire. Par défaut, vous voyez qu'il s'écrit dans le résumé de ma vue. On pourrait spécifier, et là encore, on ne va pas toucher à la vue, on spécifie simplement dans notre modèle une nouvelle collection de type string. Et là, à l'intérieur de cette collection, je vais pouvoir spécifier une ou plusieurs propriétés qui vont être impactées par ce message d'erreur. Je recompile, je renvoie le formulaire. Et là, vu que j'ai spécifié un champ pour ce message, je ne vais plus avoir le message qui va être affiché dans le résumé de validation, mais il va être affiché juste à côté du champ concerné, comme ici. Donc, voilà pour l'intégration de l'interface invalidatable object. On peut noter quelques points qui vont être un peu rebutants, c'est-à-dire que quand je fais un create ici, j'ai un postback de toutes mes données vers le serveur. Ce serait bien de pouvoir utiliser de l'Ajax. Et en plus, cette méthode validate ne va être prise en compte que si toutes les validations au niveau des champs, des propriétés, seront bonnes. Et c'est ce qu'on va voir justement avec les attributs de validation. On va pouvoir spécifier pour les propriétés des attributs et des méthodes de validation. Pour cet exemple suivant, j'ai un nouveau modèle qui va être le modèle session. Donc là, j'ai un peu plus de propriétés, donc j'en ai quatre, title, speaker, schedule et description. Et là, je vais pouvoir, au lieu d'implémenter l'interface invalidatable object, je vais pouvoir spécifier pour des validations simples, comme ici, l'attribut required. Donc cet attribut, comme pour l'interface invalidatable object, est inclus dans l'espace de nom system.componentModel.dataNotation. Elle vient donc avec le framework 4. Je compile. Je retourne dans mon application. Donc là, comme pour l'exemple avec TrackModel, j'ai créé un formulaire par défaut avec Visual Studio. Donc j'ai fait aucune modification pour prendre en charge la validation au niveau de ma vue. Là, je soumets le formulaire. Vous aurez remarqué déjà que je n'ai pas de postback qui a été effectué. J'ai la validation qui est faite. Et le tout est fait en JavaScript. Et c'est justement grâce. Si on va voir dans le code source, grâce aux attributs dont je vous parlais au moment des améliorations JavaScript, on peut voir que le champ title va avoir cet attribut supplémentaire, data-val, qui aura la valeur true, qui indique donc qu'on a une validation à faire sur ce champ. On a en plus cet attribut data-val-required qui va permettre de spécifier qu'il s'agit d'une validation de type requise qu'on doit effectuer sur le champ et le message d'erreur qui s'affiche ici. Je pourrais très bien pouvoir spécifier plusieurs attributs de validation. Par exemple ici, donc je vais spécifier un champ requis plus je veux pas que mon champ dépasse les 10 caractères. Je pourrais aussi également rajouter, modifier la propriété error message pour pouvoir personnaliser le message d'erreur à afficher en cas de non-validation. Alors vous aurez remarqué, si je reviens sur le formulaire, que le champ ici est écrit, le message d'erreur par défaut est écrit en français, parce que j'ai un Windows qui est en français. Si vous avez un Windows en anglais, c'est la langue du serveur qui va prendre le pas ici sur ce message d'erreur. Donc là, j'ai écrit mon nouveau validateur, je compile. Donc là, je suis obligé de recharger ma page puisque toutes les validations sont incluses dans le source. Là encore, j'ai donc bien ma validation qui se fait. On peut voir la validation au niveau de la longueur des champs est également effectuée. Et là, comme pour l'exemple précédent, je vais avoir les attributs data-val qui aura la valeur true pour mon champ speaker. Je vais avoir cet attribut data-val-length qui va me permettre de spécifier qu'on va faire une validation au niveau de la longueur du champ. Donc, toujours la valeur de cet attribut, c'est la valeur du message d'erreur. Alors, comme une validation au niveau de la longueur des champs implique d'avoir une longueur maximale, j'ai cet attribut data-val-length-max qui a été ajouté avec la valeur 10 que j'ai spécifiée dans mon modèle. Et toujours cette validation de type requis que j'avais également spécifiée. Et là encore, j'ai fait aucune modification au niveau de ma vue, simplement en travaillant sur mon modèle que je peux faire ce type de validation. Alors, on va passer à l'attribut remote. On n'a fait que des validations simples pour le moment. Est-ce que le champ est requis? Quelle est la longueur du nombre de caractères? On peut facilement imaginer avoir à faire des validations avec des appels au niveau du serveur, notamment en base de données. Alors pour faire ceci, on a un attribut qui est l'attribut remote. Donc cet attribut, il est inclus dans l'espace de nom system.web.mvc, contrairement aux autres. En premier paramètre, je vais spécifier l'action qui va faire la validation de ma propriété. Et bien évidemment, en deuxième paramètre, je vais ajouter le contrôleur qui inclut cette action. Si je vais dans mon contrôleur, donc là, j'ai ma fonction isDataOK. On voit qu'elle va retourner un résultat de type JSONResult. Si on va voir de plus près cette classe, on voit qu'elle dérive de la classe ActionResult et qu'elle permet d'encoder les retours vers le client en JSON. Donc ma fonction, mon action isDataOK va prendre en paramètre une chaîne de caractères schedule. Donc moi je fais juste un test simple ici pour spécifier est-ce qu'il s'agit déjà d'une date, est-ce qu'elle est incluse entre aujourd'hui et demain. Dans quel cas je vais renvoyer la valeur true ou la valeur false. On peut imaginer ici pouvoir implémenter la logique qu'on souhaite, c'est-à-dire des appels en base de données ou à tout autre type de serveur. On va mettre un point d'arrêt ici. Je compile. Lancer. Donc, je suis toujours sur le même formulaire que précédemment. Je vais ouvrir Firebug. On recharge cette page. Et là, à ce moment-là, dès que je vais taper des données à l'intérieur de mon champ, je vais changer de champ. Je vais avoir une requête de validation. Je reviens sur le navigateur. Je vais avoir une requête qui va être envoyée donc à mon. Je zoome. Qui va être envoyé à mon contrôleur Validation Improvement, à mon action isDataOK, et on voit qu'en paramètres, on a Schedule avec le contenu que j'ai inséré dans mon champ. Donc, Ici, au niveau de Visual Studio, j'ai le point d'arrêt qui a été atteint. Si je regarde la propriété Schedule, elle a bien la valeur que j'ai insérée dans mon champ. Et je vais pouvoir faire ma validation et retourner ici false, puisque forcément ce n'est pas une date que j'ai saisie, retourner le résultat au client. On renvoie. Et j'ai bien le message d'erreur par défaut qui s'est ajouté. Donc là, comme pour les autres attributs, vous aurez pu remarquer qu'on n'a pas fait de post-back. On a eu validation au niveau du Ajax. Donc à chaque fois que je saisis un contenu, je vais avoir une validation qui va être envoyée. Et là, la même manière que les autres attributs, pas le bon bouton. Si je vois le code source de la page, mon champ schedule va maintenant contenir cet attribut data-val qui aura la valeur true. Et là, je vais avoir cet attribut data-val-remote qui va permettre de spécifier qu'il s'agit d'une validation à distance à faire. Donc, comme précédemment, j'ai toujours le message d'erreur qui va aller avec. J'ai cet attribut data-val-remote-additional-field qui permet de spécifier quels vont être les champs qui vont être envoyés pour validation. Et on va avoir ce dernier attribut data-val-remote-url qui va inclure l'URL vers laquelle envoyer la requête pour la validation. Okay. Je vais arrêter là pour les démonstrations sur la validation des modèles. Donc vous aurez vu que c'est assez facile à mettre en place. Tout se fait au niveau du modèle. On n'a pas besoin de toucher à la vue pour pouvoir mettre nos validations en place. On a deux attributs qui ont été ajoutés à cette version d'MVC. Donc on a la validation granulaire des données. Je pense que tout le monde qui est développeur a déjà eu ce type d'erreur. C'est quand on insère du contenu HTML dans un champ et qu'on n'a pas passé l'attribut validateRequest à false. Donc dans la précédente version et dans les webforms, on avait soit dans web.config, soit au niveau des pages, on pouvait mettre cet attribut validateRequest, mettre sa valeur à false, et on pouvait au niveau des champs insérer n'importe quel type de contenu, HTML ou non. Maintenant, on va pouvoir le faire beaucoup plus granulairement, c'est-à-dire qu'au niveau d'une propriété, on va pouvoir spécifier cet attribut HelloHTML. Donc pour ceux qui auront suivi les évolutions de cette version MVC, elle était appelée avant Skip Request Validation. Elle a été renommée pour la release en HelloHTML. Et en spécifiant cet attribut sur notre propriété ici Description, on va pouvoir indiquer on autorise le contenu HTML dans ce champ-là. Les autres champs qui n'auraient pas été marqués avec cet attribut-ci conserve la validation qui est faite côté serveur et vous auriez ce message d'erreur également si du contenu HTML venait à être inséré dans ces champs. Le dernier attribut que je voulais vous présenter, c'est l'attribut additional metadata. On va pouvoir ajouter des métadonnées sur nos propriétés. Donc là, je vais spécifier l'attribut additional metadata. Le premier paramètre, c'est la clé pour ma métadonnée, donc là, everyone. Le deuxième paramètre, moi j'ai spécifié un booléen qui est true, mais on peut mettre tout type d'objet, plus ou moins complexe. Et ensuite, au niveau de notre vue, on va pouvoir, à partir de la classe statique modèle metadata, on va pouvoir faire une expression lambda pour récupérer les métadonnées de la propriété description et avoir un dictionnaire additional value dans lequel je récupère ma valeur pour la clé everyone. Ensuite, à moi d'implémenter la logique qui va avec. Donc ici, par exemple, est-ce que ce champ est visible à tout le monde ou non? Cet attribut doit être considéré plus comme un espace où vous pouvez passer des choses entre votre modèle et votre vue. C'est à vous d'implémenter la logique derrière. Le conteneur est fourni, mais après, à vous d'en voir l'utilisation. On va passer à l'injection de dépendance, donc les améliorations qui ont été effectuées. Depuis les précédentes versions de MVC, on avait déjà l'injection de dépendance. Il y a beaucoup de frameworks qui sont sortis justement pour l'implémenter. On va avoir Unity, Winsor, Ninject. Et là, ça faisait beaucoup de choses un petit peu à gauche, à droite. Et l'équipe MVC a créé toute une série d'interfaces qui va permettre de pouvoir gérer un petit peu plus facilement tous ces frameworks. Donc, il n'y a pas du tout de framework d'injection de dépendance qui est inclus avec MVC. On va toujours utiliser ces frameworks tiers. Par contre, on va avoir une couche intermédiaire qui va faciliter un peu l'utilisation de ceci. Moi, je vais faire une démonstration, je vais faire le focus sur une interface qui est l'interface e-Dependency Resolver. Donc, si je prends ce contrôleur, je vois que j'ai une propriété service qui est de type message service. Je vais avoir mon action sample one ici qui va instancier cette propriété service, puis qui va utiliser la méthode getMessage de cet objet. Donc, cette méthode getMessage, elle retourne simplement un message hein, sous forme de chaîne de caractères. Si on va voir au niveau du navigateur. Voilà, donc j'ai le message qui apparaît. Donc là, ça me pose un problème, c'est-à-dire que si demain j'ai mon objet de type message service qui est modifié pour quelque raison que ce soit, notamment son constructeur comme ici, je vais devoir aller dans ce contrôleur et faire les modifications aussi de l'instanciation de cette classe. Suivant la complexité du projet, il peut y avoir d'endroits sur lesquels il faut effectuer la modification. Donc l'idée, c'est que ici, notre contrôleur va communiquer avec une interface et notre service va implémenter cette interface pour pouvoir gérer entre les deux. Alors si je retourne sur mon service, je vais rajouter une interface. Donc cette interface, elle va simplement contenir la définition d'une méthode getMessage. Dans mon contrôleur, je ne vais plus utiliser un type message service, mais je vais préférer d'utiliser l'interface eMessage service. Ça implique que je ne peux plus instancier un objet de type message service, donc j'enlève cette instanciation. Donc là, dans la théorie, j'ai des objets qui sont découplés. J'ai mon objet de type eMessage service, mon contrôleur. On ne sait pas comment l'un et le, comment la propriété service est instanciée. On n'a pas besoin de le savoir. Et si je compile, j'ai aucune erreur. Par contre, en retournant dans mon navigateur, je vais logiquement avoir ce message d'erreur. La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'objet, puisque ici, cette propriété service n'est instanciée nulle part. Alors, c'est ici que je vais avoir besoin du framework d'injection de dépendance. Donc, moi, j'ai utilisé Unity que j'ai implémenté avec NuGet. Donc, si je vois. Donc, ici, je vais avoir cette classe, Simple Dependency Resolver, que j'ai fait, dans laquelle j'ai implémenté l'interface eDependency Resolver. Donc, si je veux voir un peu plus près cette interface, on voit qu'elle contient deux méthodes, getService et getServices, qui vont retourner respectivement soit un objet, soit une collection d'objets, en fonction du type qui aurait été passé en paramètre. Alors, dans ma classe Simple Dependency Resolver, j'ai implémenté cette interface. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail ces deux méthodes, ici. Donc les deux vont retourner à l'aide de mon conteneur qui est ici un conteneur Unity. En fonction du type, s'il est résolu, va retourner ce type. Sinon, par convention, va retourner null pour la méthode getService. Et pour la méthode getServices, on va retourner une collection d'objets vides, mais instanciés. L'intérieur de cette classe, en fait, elle va me servir d'encapsulation pour mon conteneur, qui est donc ici Unity, qui est encapsulé ici et instancié. Donc maintenant, implémenté mon framework d'injection de dépendance. Il va falloir que je le lie avec mon application pour pouvoir résoudre le type eMessage service. Donc, ça se passe au niveau du fichier Global Asax. Donc, je vais juste aller dans celui-là. Donc, voilà, j'ai créé une méthode Register Dependency Resolver. Ma méthode va instancier un nouveau conteneur de type Unity. Ensuite, dans ce conteneur, je vais enregistrer l'association entre mon interface eMessage Service et mon type service. Puis ensuite, je vais pouvoir associer ce conteneur encapsulé dans la classe qui va implémenter l'interface Dependency Resolver. Le tout, je vais le rajouter à la classe, à l'objet statique Dependency Resolver. J'appelle cette méthode à l'intérieur de l'application Start. Ici. La dernière chose à faire, c'est que je retourne dans mon contrôleur et je vais marquer ma propriété service avec l'attribut Dependency, comme ici, pour spécifier que cette propriété va bénéficier de l'injection de dépendance. Alors, je retourne dans mon navigateur, je recharge la page. Et là, au moment du rechargement, au moment de l'appel de la méthode getMessage, le type eMessageService est résolu par le Dependency Resolver en type MessageService et une instance de cet objet est retournée à mon contrôleur qui peut maintenant afficher le message. Donc voilà, pour l'amélioration de l'injection de dépendance, il y a plusieurs autres interfaces qui ont été ajoutées avec cette version de MVC. On n'a pas le temps de toutes les détailler. Mais le but est justement de simplifier l'utilisation de tous ces frameworks tiers, donc Ninject, Unity, Winsor, etc. On arrive aux autres nouveautés qui viennent avec MVC3. Donc on a le cache partiel des pages. On pouvait précédemment cacher le contenu complet d'une page. Maintenant, on va pouvoir cacher une action ou simplement des sous-vues. Alors on attribue output cache qui va nous permettre de spécifier la durée du cache. On a aussi les contrôleurs sans session. Donc la variable de session, une fois qu'on l'utilise, on va avoir des requêtes qui vont être faites de manière séquentielle, les unes après les autres. Si on a beaucoup de requêtes, notamment des requêtes Ajax à effectuer, on va préférer ne pas utiliser cette variable de session. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des requêtes qui vont être faites en parallèle, donc plusieurs requêtes en même temps. On a également la prise en charge du support JSON. Donc ici, on va pouvoir envoyer directement à nos actions. Si mon action attend un objet typé, par exemple, comme dans les précédents exemples, un objet de type session model, je vais pouvoir lui passer au format JSON dans ma vue un objet déjà encapsulé, déjà encodé en JSON, et lui-même va pouvoir le décoder et le transformer en objet .NET que je vais pouvoir utiliser ensuite dans mon action. On a aussi l'implémentation de nouveaux helpers qu'on peut facilement intégrer avec NuGet, donc notamment pour Twitter, pour Facebook, pour les charts, qui est beaucoup plus important. Vous avez simplement à les télécharger depuis NuGet et vous avez toute une série de helpers qui vont permettre de facilement afficher le profil d'une personne ou, dans le cas des charts, afficher facilement des graphiques de toutes sortes. Vous avez également la dernière nouveauté qui est plutôt une assez grosse nouveauté, ça ne fait pas partie de MVC. Mais ça vient en même temps, puisque quand vous téléchargez la version MVC3, vous avez aussi NuGet. Donc c'est un système pour packager vos librairies. Vous pouvez avoir des repositories donc online, vous avez directement depuis Visual Studio, vous pouvez les télécharger. Soit sinon, vous pouvez vous faire au sein d'une entreprise un repository local. Et là, vous pouvez stocker toutes vos librairies et pouvoir les utiliser dans différents projets. J'avais prévu plusieurs démonstrations pour ces différentes parties. Malheureusement, on va pouvoir le temps. Voilà, vous avez mes informations ici de contact. J'ai un blog. J'essaye de publier assez régulièrement des articles sur un petit peu ce que je fais au quotidien. C'est un peu hétéroclite, il y a du MVC, du SharePoint. Vous pouvez toujours me retrouver ici. Vous pouvez me poser des questions également, soit sur Twitter, soit par email, comme vous souhaitez. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Jérôme. Et bon, il ne l'a pas vraiment prononcé, mais je vais le dire à sa place. Il est aussi également auteur d'un livre sur C-Sharp 4, qui a été publié, je crois, début de cette année ou
Décembre.
décembre, fin de l'année dernière. Donc, il a les connaissances. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour Jérôme sur le modèle View Controller 3? On a quelques minutes pour une ou deux questions, si vous voulez. Non? D'accord. Dans ce cas-là, cette première journée des techs est terminée. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous invite, on a l'apéro qui vous attend dehors dès maintenant jusqu'à 20h30. Alors, je vous en prie et n'oubliez pas de remplir les feedbacks et surtout de participer au concours. On envoie les partenaires. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci.